Nous allons maintenant entrer dans un cas très particulier mais très révélateur, qui est celui donc des investisseurs qui sont admis comme migrants. De quel droit ? C'est ce que Samantha Besson va nous expliquer maintenant.
Cher François, chers collègues, mesdames, messieurs, qui n'êtes pas ici, je vous remercie beaucoup de nous accueillir cet après-midi, Jean et moi, deux juristes, dans ce séminaire de sociologues, à partager avec vous nos conceptions de juristes sur la migration. Alors, ce dont je veux vous parler cet après-midi, c'est à la fois quelque chose de très actuel, puisque la question de la vente des passeports européens, ou plus précisément de l'acquisition de la citoyenneté européenne par investissement financier, est au cœur d'un contentieux entre la Commission européenne, le Parlement européen aussi, et au moins trois États membres de l'Union européenne, Chypre et Malte, et peut-être prochainement la Bulgarie. Donc c'est quelque chose de très actuel, au cœur duquel nous nous trouvons. Mais c'est aussi quelque chose qui soulève, à mon avis, de nombreuses questions philosophiques et juridiques beaucoup plus vastes, et notamment des questions sur l'avenir de la citoyenneté et de la nationalité en Europe, et donc de la démocratie en Europe, mais aussi, plus généralement, nous le verrons, l'avenir de l'État en droit international, l'État dont nous avons tant parlé durant cette première heure. Alors, peut-être quelques mots d'abord d'introduction sur le contexte, tout d'abord, de la question, ensuite sur ce que sont ces questions plus précisément, et enfin sur les enjeux. Le contexte, c'est le développement d'un marché mondial de la citoyenneté et plus largement de ce qu'on peut appeler par référence à d'autres migrations dont vous avez parlé cette année, de la migration des riches. Ce marché mondial de la citoyenneté s'organise autour de ce qu'on appelle les PACI, P-A-C-I, c'est-à-dire les programmes d'acquisition de citoyenneté par investissement, immobilier ou financier, et sans exigence d'un autre lien de rattachement à la population de l'État dont on acquiert la nationalité, et donc à cet État. Donc voilà ce que j'appellerais, pour la suite de cet exposé, les PACI. On parle aussi parfois de passeport doré. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez rencontré. Donc ces PACI, ces programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement, sont en forte croissance dans le monde, mais ils sont aussi en forte croissance dans l'Union européenne. Et pourquoi dans l'Union européenne ? Eh bien, pour la raison suivante, si vous acquérez aujourd'hui par investissement la citoyenneté de l'un des 27 États membres de l'Union, vous acquérez par la même occasion et par le même investissement des droits de citoyenneté européenne dans les 26 autres États membres de l'Union européenne. Et ces droits, quels sont-ils, ces droits de citoyenneté de l'Union ? Eh bien, ce sont notamment des droits d'accès et de séjour dans les 26 autres territoires, mais aussi différents droits politiques et sociaux liés à ce séjour. Donc l'attrait de la citoyenneté de l'Union européenne pour les investisseurs, je pense, est clair. Mais quel est l'attrait inverse de ces investisseurs pour les États membres de l'Union européenne ? Eh bien, on sait, l'Union européenne a été malmenée, les États membres de l'Union européenne ont été malmenés par des crises successives, mais notamment par une crise économique très profonde, et désormais par la prochaine crise économique qui ne manquera de suivre la crise sanitaire actuelle. Donc on a vraiment une rencontre d'intérêts win-win entre quelques États pauvres ou en tout cas frappés par différentes crises dans l'Union européenne et des investisseurs. Ce qui veut dire qu'on a tout un marché qui s'est développé, mais aussi une multiplicité d'entreprises, de think tanks, de bureaux d'avocats et aussi d'académiques, malheureusement, qui sont entraînés dans le sillage de cette économie, de la citoyenneté et de la migration des riches. Maintenant, quelles questions est-ce que ça soulève ? Ça soulève, à mon avis, deux types de questions. D'abord, des questions morales, de morale politique, autour notamment de la marchandisation d'un statut politique fondamental. Est-ce que la citoyenneté est quelque chose qu'on peut marchandiser et vendre, comme on a vendu la terre, la monnaie et le travail ? Pourquoi ne pas vendre la citoyenneté ? Deuxième question de politique morale ou de morale politique que cela pose, à mon avis, c'est les inégalités, ici financières, dans l'acquisition d'un statut politique fondamentalement égalitaire, dans l'ordre politique d'après-guerre, qui est un ordre politique démocratique. Alors, ces deux questions de morale politique, j'en ai traité ailleurs, dans un article dont je peux donner la référence à François et Laura, si vous le souhaitez. Donc je n'y reviendrai pas ici directement, sauf en lien avec l'interprétation du droit, puisque ces questions morales nourrissent l'interprétation du droit par le juriste. Je me concentrerai plutôt sur les questions juridiques que posent ces programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement, et notamment toute la question de leur compatibilité, d'une part avec le droit international de la nationalité, et d'autre part avec le droit de la citoyenneté de l'Union. Ces questions juridiques sont au cœur de l'actualité, je l'ai dit, vous les trouvez traitées, bien qu'encore, à mon avis, de manière très maladroite, dans le rapport du Parlement européen de 2018 et le rapport de la Commission européenne de 2019, mais surtout, vous les retrouvez dans la mise en demeure qu'a faite la Commission européenne de Malte et Chypre en octobre 2020, et peut-être, d'ici quelques mois, qui sait, j'y reviendrai, dans la procédure en manquement que la Commission européenne pourrait déclencher contre ses États membres devant la Cour de justice de l'Union sur la base de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Si la Commission décidait de saisir la Cour de justice de l'Union, il serait essentiel de fournir à cette Cour de justice autant d'arguments que possible contre, ce sera mon propos, ces programmes d'acquisition de citoyenneté par investissement, surtout sachant que ces programmes sont pour l'instant défendus par la majeure partie de la doctrine existante. Quels enjeux maintenant pour ces questions ? Eh bien évidemment, un enjeu immédiat. Ces programmes sont-ils légalement valides, acceptables ? Mais surtout, un enjeu pour l'avenir de la citoyenneté de l'Union européenne et par ricochet, la citoyenneté des 27 États membres de l'Union. Santé. Et enfin, troisième cercle de questions, l'avenir de la nationalité et donc de l'État en droit international des institutions d'après-guerre. Alors avant de commencer avec mon exposé, il me faut, comme l'exposé précédent, et c'est peut-être le travers des juristes, mais au moins ça a le mérite de la clarté du propos, définir ce dont je vais parler, exclure un certain nombre de choses et délimiter. Alors tout d'abord, il faut souligner quelque chose qui a été indirectement souligné tout à l'heure par François Héran, c'est que vous aurez remarqué que dans le propos que j'ai tenu jusqu'ici, j'ai utilisé de manière interchangeable nationalité et citoyenneté. Alors qu'on sait bien qu'historiquement, il a fallu se battre pour que la citoyenneté recouvre la nationalité. Mais c'était tout l'enjeu du droit international des droits de l'homme et du droit de la démocratie d'après-guerre, d'après 1945, de faire en sorte que les ressortissants des États, donc les nationaux, bénéficient de tous les droits de citoyenneté. Donc aujourd'hui, on peut dire que le droit international de la démocratie et des droits de l'homme demande à ce que la citoyenneté regroupe et se recoupe avec la nationalité, d'où l'interchangeabilité dont j'ai parlé. Vous retrouvez d'ailleurs cette même interchangeabilité en droit de l'Union européenne, où on parle de manière équivalente de citoyenneté nationale ou de nationalité. Alors, quelle définition pour la nationalité prise comme synonyme, je l'ai dit, de citoyenneté en droit international et en droit de l'Union ? Eh bien, la définition que j'utiliserai, mais j'y reviendrai parce qu'elle a été controversée, c'est celle que vous avez à l'écran, qui a été donnée par la Cour internationale de justice dans une affaire Notbaum. La Cour nous dit « La nationalité est un lien juridique, donc on retrouve le droit, ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêt, de sentiment, jointe à une réciprocité de droits et devoirs. » Ce qui est très important pour nous ici, c'est le fait social de rattachement et la solidarité effective. Remarquez que dans l'article 2A de la Convention européenne sur la nationalité, la nationalité est définie comme le lien juridique entre une personne et un État. Et l'article 2 complète cette définition en excluant que ce lien juridique n'indique l'origine ethnique de la personne. Ça, c'est quelque chose d'important sur lequel nous reviendrons aussi. Donc voilà la définition du droit international qu'on retrouve d'ailleurs en droit de l'Union, dans l'arrêt Tiebes, par exemple, de la Cour de justice de l'Union de 2019. On retrouve ce même vocabulaire de rattachement effectif et de solidarité. Donc voilà ce lien juridique qui a à sa base un fait social de rattachement entre les membres d'un même peuple et qui fait de ces membres d'un même peuple un peuple. C'est grâce à ce rattachement qu'ils forment une communauté politique. Et puis, par extension, ce lien de rattachement devient un lien de rattachement entre ces personnes et l'État ainsi constitué. Quelques exclusions ensuite, parce qu'on ne peut pas parler de tout. D'abord, des programmes d'acquisition de droits de résidence par investissement. Les paris. Les paris sont ce qu'on appelle aussi parfois les visas dorés. Moi, je vais parler des passeports dorés, donc des programmes d'acquisition de citoyenneté. Les programmes d'acquisition de droits de résidence par investissement sont moins contestés, mais feraient l'objet, je pense, d'un autre séminaire si nous souhaitions en parler. Je vais aussi exclure de mon champ de traitement les PACI qui sont fondés sur d'autres formes de mérite que le mérite financier. Je vais aussi exclure les PACI hybrides. Nous avons vu certains États, au moment où ils ont été inquiétés sur les programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement financier pur, modifier ces programmes en ajoutant un lien de rattachement supplémentaire comme la résidence, ce qui les transforme, à mon avis, dans des formes tout à fait classiques d'acquisition de la nationalité. Donc je les exclus ici. Je pense que leur hybridité confirme qu'il y a un problème avec les PACI purs. Et j'exclurai aussi les programmes d'acquisition de citoyenneté par investissement pour personnes morales, pour la simple et bonne raison que je pense qu'une personne morale, donc une entreprise par exemple, ne peut pas avoir une citoyenneté lorsqu'elle acquiert une nationalité. Donc cette interchangeabilité entre citoyenneté et nationalité que l'on retrouve pour les personnes physiques en droit international ne s'applique pas aux personnes morales. Enfin, je ne parlerai pas des autres questions juridiques que posent les PACI, comme par exemple les questions de fraude, de blanchiment ou toute autre forme de criminalité qui sont aujourd'hui aussi dans le collimateur de la Commission européenne, mais qui sont beaucoup plus faciles, à mon avis, à maîtriser et juguler. Alors, voici mon annonce de plan. Ce sera très simple. Je vais d'abord vous présenter quelques arguments de droit international contre ces programmes. Ensuite, je compléterai par des arguments de droit de l'Union. Et enfin, si le temps le permet, nous regarderons d'un peu plus près ce qu'il peut advenir du contentieux européen sur la question et ce qu'il est possible de faire juridiquement pour donner suite aux arguments que j'aurai présentés. Alors, je commence avec les arguments de droit international contre les programmes d'acquisition de citoyenneté par investissement. Pour rendre ces arguments compréhensibles, il me faut d'abord vous donner quelques rappels sur la nationalité en droit international, comme l'a fait mon prédécesseur tout à l'heure, en vous donnant quelques précisions juridiques qui ne sont jamais, je pense, perdues, s'il faut ensuite suivre la technicité de l'argument d'un juriste. Alors, quelques rappels sur cette nationalité en droit international. Alors, existe-t-il tout d'abord un droit international de la nationalité ? Ce que j'ai appelé ici à l'écran le DIN, le droit international sur la nationalité. Oui, il existe un régime de droit international sur l'acquisition et la perte de la nationalité. C'est un régime qui remonte au 19e pour la coutume, et puis ensuite pour les traités, donc les conventions, au début du 20e, puis ça s'est poursuivi durant le 20e. C'est un régime qui demeure toutefois très limité. Il y a assez peu de principes et de règles, malgré la grande pertinence de la nationalité, on l'a vu tout à l'heure, dans l'ordre international. Alors, ce régime, il consiste, grosso modo, je m'excuse d'être simple, il consiste en tout d'abord deux principes et puis ensuite un certain nombre d'exceptions qui ont été rajoutées après-guerre. Les principes, nous les connaissons depuis le 19e, c'est tout d'abord une compétence des États en matière de nationalité. Chaque État peut définir et déterminer qui doit et peut devenir un ressortissant national. Et c'est une compétence qu'il n'a pas déléguée à une organisation internationale ou au droit international dans son entier. Ce qui implique une très grande diversité des modes d'acquisition de nationalité, par exemple par la naissance, la filiation, le territoire, ou par la naturalisation ultérieure. Et vous retrouvez d'ailleurs une référence à la multitude de modes d'acquisition de nationalité selon le droit national, dans l'article 4 du projet d'article de la Commission du droit international sur la protection diplomatique, qui, vous voyez, cite à titre d'exemple tous ces modes d'acquisition de la nationalité, filiation, naturalisation, etc. Mais la liste est beaucoup plus vaste. Donc ça, c'est le premier principe des principes. En soi, la nationalité relève de la compétence nationale et il y a une grande diversité des modes d'identification du lien de rattachement. Il s'agit chaque fois de vérifier qu'il y a un rattachement, mais ce rattachement peut être vérifié sur la base de critères extrêmement variables, comme l'article 4 des APD le confirme. Une fois la compétence de déterminer la nationalité acquise, eh bien, le deuxième principe en droit international de la nationalité qui existe depuis le 19e, c'est la reconnaissance mutuelle de la nationalité acquise selon le droit d'un État. Une fois que vous avez acquis cette nationalité, les autres doivent la respecter et donc traiter votre ressortissant comme un ressortissant de votre État. Au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu avant et bien sûr un petit peu après, de nouveau, je suis assez simple ici, le droit international de la nationalité s'est étoffé d'exceptions et d'exigences minimales supplémentaires. Aujourd'hui, la compétence des États en matière de nationalité est encadrée notamment par l'interdiction de la discrimination. Si une politique d'acquisition de la nationalité est raciste, elle sera évidemment considérée comme contraire au principe de non-discrimination. On peut aussi mentionner la protection des droits de l'homme en général et la protection contre l'apatridie. Si la perte de nationalité d'un État implique l'apatridie, elle pourra être saisie sur la base de cette interdiction et de la protection contre l'apatridie. Et il y a d'autres exceptions sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, mais on voit, depuis 1945, sous la force du droit international des droits de l'homme et de l'individualisation dont on parlait tout à l'heure du droit international, on voit le droit de la nationalité et les compétences nationales des États être limitées par le droit international. Alors, au début du XXe siècle, et puis ça a culminé ensuite dans cet arrêt célèbre Nottebohm, le droit international de la protection diplomatique, c'est-à-dire le droit international qui permet à un État de prendre fait et cause et de protéger ses ressortissants dans un autre État lorsqu'ils se font malmener. Le droit international de la protection diplomatique a été interprété par la Cour internationale de justice dans l'arrêt Nottebohm comme impliquant une condition supplémentaire à la nationalité de l'État, et notamment cette condition de rattachement effectif. Donc pour la Cour, dans cette affaire sur laquelle je ne peux pas entrer maintenant, il s'agissait de permettre à un État d'opposer à un autre État qui invoquerait la protection diplomatique le fait que le lien de rattachement du ressortissant protégé à l'État qui souhaitait le protéger était trop lâche. Alors aujourd'hui, cet arrêt, en tout cas dans son volet de protection diplomatique, est remis en cause, notamment par la Commission du droit international dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on considère que le critère de rattachement effectif comme critère supplémentaire ne doit plus être accepté en matière de protection diplomatique, mais ça ne concerne pas l'acquisition de la nationalité elle-même, ça ne fait que tempérer l'exigence de reconnaissance d'une nationalité étrangère à l'étranger. En matière d'acquisition de la nationalité, je pense que la définition de Nottebohm tient, elle est d'ailleurs reprise, je l'ai dit, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, et donc la nationalité demeure la traduction juridique d'un lien de rattachement effectif ou réel, d'un type ou d'un autre, au risque sinon de devenir complètement arbitraire. Alors passons maintenant à ce que vous attendez, c'est-à-dire le premier volet des salves que l'on peut envoyer contre les programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement en droit international. Eh bien, la première salve, elle découle de ce que je viens de vous dire. Si le lien de nationalité entre un individu et un État est considéré comme la traduction juridique d'un lien de rattachement effectif entre les membres d'un même peuple, au sens politique et juridique du terme, il ne peut être considéré comme acquis en droit international, avec tous les effets internationaux qu'il implique, que si le droit national sur l'acquisition de la nationalité se fonde sur un ou plusieurs critères ou standards à même d'établir ce rattachement, au risque sinon d'être arbitraire. Alors certes, l'établissement du lien de rattachement effectif peut se faire par le recours à différents critères ou standards, plus ou moins fiables et qui évoluent selon les époques, ou libre choix des États, comme la filiation, je l'ai dit, biologique ou sociale, le mariage, l'adoption, le lieu de naissance, de résidence, etc., etc. Mais tous ces critères, pour variables qu'ils soient, doivent au moins refléter un rattachement effectif, au risque sinon d'être arbitraire. Ce qui exclut, à mon avis, d'emblée, l'établissement d'un lien de rattachement effectif sur la base d'un critère purement économique. En soi, le critère économique est incapable d'établir la solidarité effective d'existence qui caractérise une communauté politique et juridique. Tout ce qu'il caractérise, c'est un intérêt financier. Donc ça n'est pas comme d'autres critères, comme l'ascendance dans une société migratoire, où on peut dire qu'il est vrai, aujourd'hui, les gens sont moins rattachés par l'ascendance, parce qu'ils bougent plus. Mais fut un temps, l'ascendance était capable de retracer le rattachement effectif. Le critère financier est incapable en soi de lier qui que ce soit à qui que ce soit. Et donc, pour moi, il est exclu d'emblée sur la base de cet argument-là. Deuxième argument d'interprétation, cette fois, du droit international, la nationalité. Je considère, et ça me fait, je pense, un peu différer de l'orateur précédent, le droit international de la nationalité contemporain comme le pendant collectif du droit international des droits de l'homme dans la protection de la démocratie post-45. Je pense que les droits de l'homme sont la branche individuelle de protection de l'égalité, mais le droit international protège aussi la démocratie comme jambe collective de la protection de l'égalité. Et donc ce rapport entre l'individuel et le collectif dont mon collègue vous parlait précédemment, je pense qu'il est construit dans la protection qu'offre le droit international actuellement, avec d'une part le droit international des droits de l'homme qui protège la dimension collective, et d'autre part le droit international de la nationalité qui protège, avec les caveats de 1945, cette dimension collective du politique et de la démocratie. Pour moi, le lien de rattachement effectif du droit international de la nationalité correspond en effet aux conditions fondamentales de l'égalité démocratique que cherche à protéger le droit international depuis 1945, c'est-à-dire le partage d'enjeux égaux et interdépendants entre personnes appelées à constituer une communauté politique. Sans égalité et interdépendance des enjeux entre personnes, pas de communauté et donc pas de justification de l'égalité entre les membres de cette communauté et donc pas de démocratie. Donc le droit international de la nationalité permet de préserver ces conditions de l'égalité démocratique. Attention, je ne parle pas de conditions communautaires d'un type ethnique ou autre. Ceci est exclu par le droit international de la nationalité. Alors, là réside mon deuxième argument. Le lien de rattachement effectif ne peut pas être déterminé sur la base d'un standard purement économique et donc inégalement distribué. Le standard économique, l'investissement, est incapable en soi d'attester de l'égalité des enjeux entre membres d'une communauté à venir, et il est surtout incapable d'attester de leur interdépendance. Donc pour moi, cette interprétation du droit international de nationalité dans l'ordre juridique international d'après-guerre est un argument supplémentaire contre les programmes d'acquisition de la citoyenneté par nationalité. On pourrait même ajouter, et ça je pense que c'est quelque chose qui plaira à François, on peut même ajouter que le standard économique serait, à mon avis, indirectement discriminatoire. Parce que derrière le critère économique de différenciation entre migrants riches et pauvres, qu'est-ce qui se cache ? Eh bien, un motif racialisant, certainement, ou en tout cas potentiellement racialisant. Donc il est même possible de construire, à mon avis, un argument en vertu du droit antidiscriminatoire. Je passe maintenant au droit de l'Union européenne et aux arguments de droit de l'Union européenne contre ces programmes d'acquisition de la citoyenneté par nationalité. De nouveau, quelques rappels, ensuite mes arguments juridiques, et enfin, il faudra bien répondre aux critiques de ces arguments. Alors d'abord, quelques rappels sur la citoyenneté de l'Union. C'est un programme chargé aujourd'hui, vous avez beaucoup de droit international et beaucoup de droit de l'Union européenne, donc c'est vraiment, pour un juriste même, c'est probablement assez chargé. Alors qu'est-ce que la citoyenneté de l'Union ? J'ai essayé de faire ici quelque chose d'assez synthétique pour vous permettre de suivre les différentes dimensions de cette citoyenneté. Tout d'abord, la citoyenneté de l'Union, c'est un statut fondamental. La Cour de justice l'a répété depuis de nombreuses années, qui est récent dans l'histoire de l'Union européenne puisque ça remonte à Maastricht. On le retrouve aujourd'hui dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce statut ouvre à chaque ressortissant d'un État membre et donc citoyen de l'Union l'accès sans discrimination aux droits qu'accorde le droit de l'Union dans les 26 autres États membres de l'Union, principalement, je l'ai dit en ouverture, la liberté de circulation et de séjour, mais aussi des droits politiques aux élections locales et européennes. La citoyenneté de l'Union, ensuite, c'est une citoyenneté dépendante ou dérivée. Si vous regardez l'article 9 du traité sur l'Union européenne, on comprend bien que la citoyenneté de l'Union ne remplace pas la citoyenneté nationale, mais ne fait qu'en dériver. Mais une fois qu'elle est acquise, par dérivation, eh bien, elle ouvre l'accès aux droits dont j'ai parlé, sans autre condition de reconnaissance du droit de l'Union ni de droit national d'un autre État membre de l'Union européenne. La citoyenneté de l'Union, c'est enfin une citoyenneté de marché, c'est-à-dire une citoyenneté construite sur des droits individuels qui sont avant tout des droits économiques, petit à petit aussi des droits sociaux, avec très peu de devoirs correspondants. Si vous regardez la liste exemplative faite à l'article 20, paragraphe 2, TFUE, vous voyez ici une liste des droits qui sont compris. Enfin, quatrième dimension, la citoyenneté de l'Union européenne, c'est un statut égal qui assure l'accès sans discrimination aux droits de l'Union. Et c'est un statut quasi-fédéral, puisqu'il exige une reconnaissance mutuelle, une confiance mutuelle telle qu'on la connaît dans les États fédéraux, comme le mien, mon État d'origine, la Suisse. Il exige cette confiance et cette reconnaissance mutuelle des citoyennetés nationales des 27 États membres. Et ce statut, ce n'est pas qu'un statut des traités, c'est aussi un statut jurisprudentiel. La citoyenneté de l'Union ne serait rien de ce qu'elle est aujourd'hui sans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, qui est étoffée sans cesse depuis 1991. Et peu à peu, cette jurisprudence en est même venue à limiter la citoyenneté nationale en retour. Par une tactique qui est plutôt une technique très fréquente qu'utilise la Cour de justice de l'Union, qui est la suivante. À partir du moment où le droit national affecte le droit de l'Union, en l'occurrence le statut fondamental du citoyen européen, eh bien ce droit national, même s'il relève de la compétence nationale des États, doit respecter le droit de l'Union. Et c'est ce qui est arrivé avec la citoyenneté européenne. La Cour de justice a identifié des circonstances dans lesquelles la perte ou l'acquisition de la citoyenneté nationale d'un État membre, affectait le statut fondamental de la citoyenneté de l'Union et devait par conséquent être remise au pas et se conformer aux droits de l'Union européenne. Ça veut dire se conformer aux droits antidiscriminatoires de l'Union européenne, ça veut dire se conformer à la charte des droits fondamentaux de l'Union, ça veut dire se conformer aux droits de l'Union européenne dans son entier. Et ça vaut tant pour la perte de la citoyenneté d'un État que pour l'acquisition, et c'est l'acquisition qui nous intéresse aujourd'hui, cette acquisition par investissement. La présentation PowerPoint est entrelardée de références jurisprudentielles que je ne peux pas vous montrer pour des raisons de temps, mais je communiquerai le PowerPoint aux personnes qui le souhaiteraient pour qu'elles puissent lire les extraits. Alors j'en viens maintenant aux arguments juridiques de droit de l'Union européenne contre ces programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement. La première critique, le premier argument juridique qu'il faut faire, et ça fait le régal des juristes, c'est que le droit international dont je vous ai parlé avant, en fait, il est intégré au droit de l'Union européenne. Ça veut dire que les arguments de droit international que j'ai présentés contre la citoyenneté de l'Union, contre les PACI, sont des arguments qui sont incorporés au droit de l'Union européenne, et donc que vous pouvez faire valoir aussi devant la Cour de justice de l'Union. Ça veut dire que l'argument que j'ai fait tout à l'heure du lien de rattachement effectif et l'argument d'égalité politique et d'interdiction de la discrimination sont deux arguments recevables en droit de l'Union européenne. L'Union européenne est une organisation internationale soumise au droit international et qui fait entrer ce droit international dans ses sources par l'article 216.2 du traité sur le fonctionnement de l'Union. D'ailleurs, dans la jurisprudence Rothman et Thiebes, dont j'ai parlé tout à l'heure de la Cour de justice de l'Union, vous retrouvez des références à cette notion de lien de rattachement effectif. Thiebes, je cite, parle du rapport de solidarité et de loyauté au fondement du lien de nationalité. Donc c'est encore plus beau et plus clair que dans l'arrêt Nottebohm. Deuxième argument, le principe de coopération loyale entre États membres de l'Union d'une part, et entre États membres de l'Union et Union européenne d'autre part. L'Union européenne, je l'ai dit, grâce à cette citoyenneté de l'Union dérivée, c'est une communauté politique. Ce n'est pas une communauté politique qui remplace la communauté politique nationale, mais c'est une communauté politique dérivée ou complémentaire des 27 communautés politiques nationales. Et on ne fait pas n'importe quoi dans une communauté politique. Dans une communauté politique où on exige la confiance et la reconnaissance mutuelle des citoyennetés nationales, eh bien, en échange de cette confiance et de cette reconnaissance mutuelle, eh bien, on se doit une coopération loyale. Et cette coopération loyale, il me semble, implique le respect de conditions minimales dans l'acquisition et la perte de la nationalité des États. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on va retrouver dans les ordres fédéraux que l'on connaît, et donc le quasi-fédéralisme, si on est prêt à entrer dans ce discours-là, de l'Union, je pense, nous donne un argument supplémentaire. Et donc ce principe de coopération loyale s'applique même dans le contexte de compétences exclusives. La nationalité entre dans les compétences exclusives des États membres, mais les experts de droit de l'Union le savent, même dans le domaine des compétences exclusives des États, les États se doivent la coopération loyale les uns envers les autres et envers l'Union européenne. Troisième argument, le principe d'égalité politique entre citoyens des États membres de l'Union et entre citoyens de l'Union. Ça, c'est quelque chose qui découle de l'article 9 du TUE, qui, avant de parler de la citoyenneté de l'Union, c'était l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, commence par, et c'est le même article, hein, commence par parler du principe de l'égalité de ses citoyens. Donc l'égalité politique, elle est vraiment exprimée explicitement ici dans le traité. Alors, vu le lien que j'ai fait tout à l'heure entre égalité politique et rattachement effectif, hein, le fait pour pouvoir prétendre à l'égalité politique, il faut partager des enjeux égaux et interdépendants et former une communauté politique, eh bien, vous trouvez ici à nouveau ce lien entre le rattachement effectif nécessaire pour l'acquisition de la nationalité et l'égalité politique. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'ici, il ne s'agit pas seulement de l'égalité politique entre citoyens d'États membres, mais aussi entre citoyens de l'Union eux-mêmes. Et je pense que c'est à cela que fait référence la Commission européenne quand elle parle d'intégrité de la citoyenneté de l'Union. C'est assez flou, mais je pense que c'est ça qu'elle essaye de capturer. A fortiori, pour cet argument-là, je vous parlerai de toute la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union en matière de libre circulation de l'Union. C'est un contentieux très technique, très important, autour des droits sociaux, et notamment d'assistance sociale, auxquels ont droit les ressortissants d'un État membre dans un autre État membre dans lequel ils résident. Et cette jurisprudence, Job Center, Alimanovitch, cette jurisprudence se fonde sur un lien réel d'intégration sociale ou culturelle pour dire oui ou non à l'assistance sociale ou oui ou non aux mesures d'éloignement. Et donc, en miroir, je pense que cette jurisprudence confirme l'importance de l'intégration sociale et culturelle pour l'égalité entre citoyens de l'Union européenne. En fait, on peut même considérer, sur la base de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui mentionne la fortune parmi les critères de discrimination prohibés, on peut même considérer que ces programmes sont discriminatoires entre citoyens de l'Union, mais aussi entre citoyens actuels, y compris investisseurs, et citoyens à venir, plus pauvres, qui seraient, eux, soumis à d'autres critères de rattachement, alors que les citoyens à venir plus riches, les investisseurs, le deviendraient du simple fait de leur fortune. Et enfin, un quatrième argument que l'on peut faire, je pense, contre les PACI, c'est le respect du droit de l'Union en général, et cela vaut même dans les compétences, dans les champs de compétences exclusives résiduels des États membres de l'Union, comme l'acquisition ou la perte de la nationalité, Rottmann et Thiébès, ce sont deux arrêts dans lesquels la Cour de justice a condamné des États membres alors que nous étions en matière d'acquisition, de perte de la nationalité. Et il y a une affaire pendante en ce moment, GY, une affaire autrichienne qui concerne l'acquisition de la nationalité. Donc nous sommes à bout touchant de conclure ce contentieux. Et donc ici, il s'agirait de respecter tout le droit primaire de l'Union, les droits fondamentaux, mais pas seulement les droits fondamentaux de l'investisseur, mais aussi les droits fondamentaux des autres qui sont concernés par l'entrée de cet investisseur dans la citoyenneté d'un État membre de l'Union. Alors, que disent les défenseurs des programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement ? Parce qu'il y en a, et je vous l'ai dit en introduction, malheureusement, aujourd'hui, ils sont assez vocaux, comment dire en anglais, dans la littérature et dans la doctrine européenne, parce qu'ils sont très bien organisés. Alors, que disent-ils en réponse à ces arguments ? Eh bien, ils vous disent, j'ai essayé de regrouper ici autant que possible ce qu'ils nous répondent, ils disent « L'absence de compétence de l'Union en matière de citoyenneté nationale et la compétence exclusive résiduelle des États membres en la matière, voire la protection de l'identité nationale, parce qu'il y a une protection de l'identité nationale, l'identité constitutionnelle à l'article 4 du TUE, eh bien, l'absence de compétence et la protection de l'identité nationale irait à l'encontre d'une décision, d'une condamnation par la Cour de justice de l'Union d'un État pour utilisation des passifs. Alors ma réponse, vous la connaissez, c'est que les compétences même exclusives des États membres de l'Union, nous le savons depuis l'arrêt Micheletti, Rottmann et Thiébès, doivent être exercées dans le respect du droit de l'Union. Ça veut dire dans le respect du droit international de la nationalité et dans le respect de tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Quant à la crainte d'une harmonisation négative du droit national de la nationalité, je pense qu'elle est sans fondement. Personne n'a jamais fait cet argument contre le droit international de la nationalité lui-même. Deuxième critique des défenseurs des PACI, le principe de confiance mutuelle entre États membres et donc de reconnaissance mutuelle de nationalité serait mis en échec par une réglementation et une condamnation d'un État pour les PACI. De nouveau, je l'ai dit, la confiance mutuelle n'est pas sans limite. Dans un État fédéral, vous ne devez pas une confiance mutuelle sans respect de certaines conditions minimales d'égalité, et notamment d'information, de justification, de coordination. Si un État fédéré pouvait simplement modifier ses règles d'acquisition de nationalité, sans en informer les autres et sans essayer de se coordonner avec les autres, nous considérerions que la coopération loyale serait brisée et que la confiance mutuelle ne serait plus due. Troisième critique que font les défenseurs des PACI, la réintroduction par le rattachement effectif d'un critère de discrimination entre citoyens et différents États membres de l'Union serait contraire aux droits de l'Union. Alors ici, je pense qu'ils sont de mauvaise foi, parce que le critère du rattachement effectif n'est pas un critère additionnel au critère de vérification du lien de rattachement qu'utilisent les États membres. Oui, les États membres ont une grande latitude dans le choix des critères de vérification du rattachement, mais il faut que ce rattachement existe. Et donc, je pense qu'ici, les critiques ne sont pas véritablement de mauvaise foi. Il n'y a pas d'opposition, je pense, entre l'arrêt Micheletti qu'ils invoquent et l'arrêt Nottebohm, en tout cas sur la définition de la nationalité. Micheletti interdit l'ajout par un État membre d'une autre condition à l'effectivité de la nationalité que celle du rattachement, mais n'interdit pas du tout que pour exister, la nationalité d'un État membre doive respecter le rattachement. Et enfin, dernier argument fait par les défenseurs des PACI, la réintroduction du rattachement effectif par le genre d'argument que je vous ai fait cet après-midi serait une concession nationaliste et populiste à certains États membres de l'Union, et Dieu sait que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de faire de concessions à ces gouvernements-là. Et donc il y aurait une contradiction fondamentale entre cette réintroduction du rattachement effectif et le principe de non-discrimination en droit de l'Union. De nouveau, je pense qu'ils se trompent. Le rattachement effectif ne doit en aucun cas être confondu avec un argument en faveur de recours à des critères ethniques ou raciaux d'acquisition de la nationalité, c'est quelque chose qui est interdit par le droit international de la nationalité, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense même que le rattachement effectif et son importance est un rempart contre les travers atomisants, individualisants, que le droit de l'Union européenne a induit malgré lui, et donc contre l'érosion et la marchandisation de la nationalité des États membres de l'Union. Je pense que le rattachement effectif peut protéger ce que la citoyenneté et la nationalité ont de collectif, et précisément, en protégeant cette solidarité, permettre que la nationalité résiste au marché et, à terme, au populisme qui se nourrit précisément de cette individualisation et de cette marchandisation. Alors, rapidement, quelques propositions de réforme. Imaginons que ces arguments vous aient convaincu. Que faire ? Eh bien, d'abord, examinons ce qu'il se passe sur ce contentieux en cours. Pouvons-nous espérer ou non une procédure devant la Cour de justice de l'Union ? Deuxièmement, ne faudrait-il pas plus largement légiférer sur cette question en droit de la citoyenneté de l'Union ? Et enfin, que faire au niveau du droit international ? Alors, les procédures d'infraction et de manquement en cours dans l'Union. Alors, dans l'immédiat, je vous l'ai dit, la Commission européenne a, sur la base de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union, mis en demeure Chypre et Malte et demandé des informations complémentaires à la Bulgarie le 20 octobre dernier. Ces deux États avaient 2 mois pour modifier leur pratique ou au moins signifier à la Commission ce qu'ils comptaient faire sur les PACI. La réponse a été le retrait du PACI à Chypre, la modification du PACI à Malte et plus ou moins un engagement à ne pas aller de l'avant avec un PACI qui avait été gelé par la Bulgarie. Le problème, c'est que ces modifications demeurent encore peu transparentes et il s'agira de savoir si la Commission européenne sera convaincue par les explications données par ces 3 États membres ou si elle souhaite engager la procédure plus loin, c'est-à-dire rendre un avis motivé dans un premier temps, et enfin entamer un recours au manquement devant la Cour de justice de l'Union. Est-ce qu'un tel recours serait utile ? Oui, je le pense. Je pense que nous avons besoin de clarté sur les conditions du droit de l'Union sur l'acquisition de la nationalité. Nous avons de la clarté, grâce à Rothman et Thiebes, sur la perte de la nationalité d'un État membre, mais nous avons besoin d'un arrêt sur l'acquisition de la nationalité. Peut-être que l'affaire YJ nous donnera les lumières que nous souhaitons, mais d'un point de vue juridique et du point de vue de la juriste, je pense que nous gagnerions à recevoir un tel arrêt. Mais cet arrêt relève de l'entière discrétion de la Commission et du calcul d'opportunité qu'elle doit faire. Va-t-elle attaquer 3 petits États membres, secoués par la crise économique, la crise sanitaire, sur un arrière-fond de populisme et de nativisme montant dans l'Union européenne ? Quel sera le calcul ? Je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'actuellement, il y a un hiatus entre la position du Parlement et de la Commission, qui est très claire, et la Commission ne manque jamais une occasion, y compris dans le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, ne manque jamais une occasion d'attaquer les PACI. Mais on n'a pas encore la position des États au Conseil ou au Conseil européen. Donc, comment est-ce que la Cour de justice naviguera ses intérêts, le cas échéant, à voir. Faut-il aller plus loin et dépasser le traitement casuistique de la question et envisager une réglementation minimale, commune, du droit de la citoyenneté de l'Union, comme nous l'avons fait en droit international, où, malgré le respect de la compétence des États en matière de nationalité, nous avons, en plus d'un siècle, établi un droit international de la nationalité minimal qui encadre le droit de la nationalité des États. Donc, que faut-il penser d'un tel projet de règles minimales communes du droit de la citoyenneté de l'Union ? Alors, le contenu d'un tel projet, je pense, serait tout à fait intéressant. Il s'agirait de rappeler les limites de droit de l'Union que j'ai exposées aujourd'hui, mais de le faire de manière systématique, plutôt que de naviguer les différents arrêts, permettrait aussi d'expliciter clairement l'exigence du rattachement effectif, mais de préciser, évidemment, que la nature dérivée de la citoyenneté de l'Union demeurait intouchée. Alors, le problème de ce genre de réglementation, c'est que actuellement, l'Union européenne n'a pas la compétence de légiférer dans ce domaine, puisque la citoyenneté nationale relève du champ de compétences exclusives résiduelles des États membres de l'Union. Donc si la Commission souhaitait lancer un tel projet législatif, il faudrait l'accord unanime des États membres de l'Union. Soit en passant par l'article 25.2 TFUE, la clause passerelle, soit en passant par les compétences subsidiaires de l'Union européenne, l'article 352 du TFUE, mais dans les deux cas, si vous lisez ces articles, vous verrez que l'unanimité est requise. Et vu les différences croissantes d'intérêts entre États membres de l'Union, surtout les différences croissantes d'intérêts économiques entre États membres de l'Union, je ne suis pas certaine que cette unanimité pourrait être trouvée, même si c'est la démocratie nationale qui est en jeu. L'opportunité d'une telle proposition de réforme et de consolidation du droit de la citoyenneté de l'Union me semble tout de même très grande dans le cadre plus large de ce qu'on pourrait appeler la reconstitution de l'Union. Nous savons que la Commission européenne a lancé un grand chantier sur la reconstitution de la politique et du droit migratoire dans l'Union en 2020. Ne faudrait-il pas aussi concevoir l'avenir du droit de la citoyenneté de l'Union dans le cadre de la reconstitution de l'Union. Et ce surtout parce qu'il est ironique que ce soit le droit de l'Union qui ait encouragé la dérive qui aboutit au PACI. C'est à cause du droit de l'Union européenne que nous avons vu progressivement les liens de nationalité nationaux s'individualiser, s'éroder, se marchandiser. Et donc c'est le droit de l'Union qui a induit cette marchandisation que j'ai critiquée aujourd'hui, mais de manière ironique, c'est en droit de l'Union que se trouvera la réponse à ce problème, et c'est en droit de l'Union, malheureusement, uniquement, que nous pourrons trouver la force juridique pour limiter, ou en tout cas faire en sorte que les PACI soient considérés comme illégaux. Enfin, peut-on espérer quelque chose du droit international de la nationalité ? Je vous l'ai dit quand je vous l'ai présenté, beaucoup d'internationalistes hésiteraient même à considérer que c'est un régime. Donc considérer qu'il puisse se développer davantage, c'est très difficile. Et pourtant, Dieu sait qu'il en aurait besoin. Parce que malheureusement, je pense qu'il est... Si le droit international des droits de l'homme a contribué à limiter les pratiques de nationalisation, les pratiques d'acquisition de nationalité des États, à juste titre, hein, pour prévenir le racisme et d'autres formes de violations graves des droits de l'homme, malheureusement, le droit international des droits de l'homme a poursuivi son cours d'individualisation et donc menace, je pense, le substrat collectif et solidaire de la nationalité. Alors, la crise sanitaire récente nous a rappelé combien ce substrat est important, combien cette solidarité nationale est importante. Et je pense que le droit international de la nationalité bénéficierait de voir cette dimension collective contrebalancée la dimension individuelle du droit international des droits de l'homme. Mais malheureusement, je dois être réaliste, je ne pense pas que ce sera demain. Même la voie du règlement judiciaire d'un différend international ad hoc entre deux États sur la question est peu probable, tant les arrêts en matière de nationalité sont rares devant la Cour internationale de justice. Les arrêts que j'ai mentionnés aujourd'hui sont très, très peu nombreux et assez anciens. Alors, le temps est venu de conclure. Je ne réitérerai pas ici tous mes arguments, mes réponses aux critiques de ces arguments, mais je dirais trois choses. D'abord, il est essentiel que ce débat politique et juridique soit mené dans chaque État membre de l'Union. Ce n'est pas qu'une question de droit de l'Union, c'est une question fondamentale de droit national, et c'est l'avenir de la citoyenneté nationale et donc de la démocratie dans l'Union et dans chaque État qui est en jeu. Quand François m'a invité à participer à ce colloque et que je lui ai proposé ce thème, il m'a dit « mais ce thème est peu connu en France ». Donc je prends François au mot, je pense qu'il faudrait le rendre plus connu. Deuxième conclusion, il faut absolument encourager les chercheurs en droit de l'Union européenne, y compris en français, à s'intéresser à cette question. Actuellement, le domaine est dominé par des chercheurs dont l'agenda et le financement est assurée par les programmes d'acquisition de citoyenneté par investissement. C'est rare, dans une carrière académique, de rencontrer des domaines et des questions dans lesquelles, des questions juridiques, dans lesquelles le discours est si fort et si marqué dans une seule direction, et ce d'autant plus que, comme je vous l'ai montré aujourd'hui, et en pleine bonne foi, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments à présenter contre ces programmes. C'est d'autant plus important d'apporter ces arguments si la Cour de justice est appelée à se prononcer sur la question. Elle aura besoin d'une multitude de positions doctrinales pour prendre un jugement équilibré et détaillé. Enfin, l'Union européenne est la seule organisation internationale à pouvoir, à l'heure actuelle, se saisir de la question de la nationalité. Et c'est la seule à disposer d'une Cour de justice de l'Union qui pourra rendre justice sur la question. Et il faut absolument que les internationalistes s'intéressent au droit de la citoyenneté de l'Union et à ce qu'elle a à nous dire, non seulement sur la nationalité des États membres de l'Union, mais en général sur l'avenir de la nationalité et donc l'avenir de l'État en droit international. Merci de votre attention.